Si vous pensez que tout a été dit et tout a été écrit pour Geneviève Guilbeault, détrompez-vous. Mathieu Bocoté est là. Salut Mathieu.
Bonjour.
Dans le dictionnaire, si elle apparaissait, qu'est-ce qu'il serait écrit sous son nom? Geneviève Guilbeault?
Oh mon Dieu, je dirais ben, spontanément, figure arrogante d'un gouvernement agonisant a préféré se retirer plutôt qu'affronter l'épreuve.
Et ça serait une photo d'elle avec un masque.
Oui, ou encore avec une cravache, que je me souviens qu'elle aimait bien les Québécois dociles, si je ne me trompe pas. Et elle avait aussi dit que le Québec pouvait se libérer du joug canadien tout en restant dans le Canada, ce qui demeurait pour moi une formule assez énigmatique. Mais apparemment que c'était la figure forte du gouvernement, apparemment aussi que les appuis lui ont manqué pour poursuivre sa carrière.
Geneviève Guilbeault, c'est la victoire de quoi et la défaite de quoi?
Non, en fait, je pense que Guilbeault, c'était l'incarnation d'une forme de, puis je le dis le mot sans qu'il ne soit péjoratif, d'opportunisme pur. C'est-à-dire, en politique, il y a des gens de conviction, inévitablement, puis il y a des gens qui veulent le pouvoir et qui vont chercher le pouvoir là où il se trouve. C'était de mémoire une libérale qui a migré vers la CAQ, comme plusieurs autres, et elle a exercé le pouvoir sur une série de malentendus. On lui prêtait, je crois, mais moi j'ai toujours été assez sceptique à son endroit, on lui prêtait des talents immenses que je ne lui reconnaissais pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle était sans talent, mais elle était... Elle représentait une forme de tentation, de ton autoritaire dans ce gouvernement. On a gardé de son souvenir, d'elle, le souvenir de l'épisode COVID. Puis on a vu ensuite tous ces retournements sur des affaires de troisième lien et ainsi de suite, qui laissent croire que ses convictions étaient assez flexibles. Donc au final, je ne pense pas qu'on va la pleurer longtemps. Je ne pense pas que par ailleurs elle sera détestée. Elle fera carrière ailleurs sans avoir laissé un souvenir déterminant.
Finalement, la CAQ, ce matin, c'est un magasin en liquidation, en faillite. C'est un local vide avec deux, trois bébelles sous le comptoir.
Ben, c'était une coalition qui tenait par la figure tutélaire de François Legault. Mais comment tenir ensemble? D'un côté, bon, Geneviève Guilbeault, elle n'est plus là. Sonia Lebel, qui, à ce qu'on sait, représente quand même l'aile fédéraliste de la CAQ. Christine Fréchette, qui, elle, représente, c'est vraiment l'héritière de la culture politique des années 2000. Donc, progressisme technocratique, pseudo-nationalisme light, hostile aux enjeux identitaires, encore immigrationniste aujourd'hui. Bon, de l'autre côté, Simon-Jolin Barrette, qui est représentant de l'aile nationaliste identitaire dans la CAQ.
Ça serait au moins pire, ça, Mathieu, quand même, Simon-Jolin Barrette.
Sachant qu'il n'est pas indépendantiste, il lui manque quelqu'un. Tout de même, je pense qu'il voterait oui, franchement, mais sachant qu'il n'est pas il sera pas à la tête d'un parti indépendantiste, j'accompagne tout ça d'un point d'interrogation, mais je pense qu'il est vraiment doué. Simon-Jolin Barrette, franchement, c'est un homme de qualité. Il nous a laissé la charte de la laïcité, la charte des valeurs, la charte de la laïcité, c'est déjà pas mal. Il a une vraie conscience de la défense des intérêts québécois. Il a une vraie défense d'une conception forte de la nation avec une dimension identitaire, existentielle. Il n'est pas dans espèce de technocratie diversitaire. Donc, une fois que c'est dit, ce parti est ingérable, quel qu'en soit le chef, parce qu'il n'a pas de doctrine commune. Le Parti libéral du Québec, quoi qu'on en dise, a une doctrine, c'est le Canada à tout prix. Le Parti québécois a une doctrine, c'est l'indépendance du Québec. Même Québec solidaire a une doctrine, c'est la gauche radicale. Puis le Parti conservateur de Duhaime, c'est globalement quand même la droite anti-étatiste. La CAQ, c'était le rassemblement, le point de convergence, en fait, de tous ceux qui voulaient gouverner au-delà de la doctrine au nom du pragmatisme. On rentre dans une époque de polarisation nouvelle. Le pragmatisme ne suffira pas, ce qui n'enlève rien au talent de Simon-Jolin Barrette, même si je note que Christine Fréchette est en ce moment la candidate préférée des médias. Donc, ils vont chercher à faire de Christine Fréchette une forme de Marc Carney québécoise. Ils vont la mettre de l'avant à la manière...
Ils vont tenter de carnifier Fréchette.
Ben on le voit en temps réel. Donc là, on chante ses louanges, on est en fait une figure d'équilibre. On va nous ressortir l'argument il est temps que ce soit une femme. Alors moi, en cette matière, j'ai jamais su ce que voulait dire il est temps que ce soit une femme. Moi, je vote pas pour le sexe de quelqu'un, je vote pour les idées de quelqu'un. Au moment de la dernière présidentielle française, j'ai pas entendu de gens dire c'est Marine Le Pen, il faut que ce soit une femme plutôt qu'un homme.
C'est un discours un peu retardé. Pourquoi on a encore ce discours-là au Québec?
Ben, je pense que le Québec est un peu... Le Québec est 10 10-15 ans en retard sur le plan des évolutions idéologiques occidentales, pour le meilleur et pour le pire. Il y a du bon comme du mauvais là-dedans, mais on est, quand on regarde notre débat public, il y a une forme de progressisme obligatoire qui détermine encore le débat public. Et puis, moi, quand je, pour ça, je reviens, quand on va me dire il faut que ce soit Mme Fréchette parce qu'il est temps que ce soit une femme, je répondrai, mais je sais pas pourquoi. Une femme, donc, plus importante que les idées, plus importante que l'orientation politique. Puis, je redonnerai mon exemple que je viens de te donner. Entre Macron et Le Pen, vous avez choisi Macron, même s'il y avait une femme devant vous. Donc, au fond de vous-même, c'est pas une femme que vous voulez. Au fond de vous-même, c'est une catégorie biologique particulière, propre au néo-féminisme bourgeois des années de technocratique des années 2000. Moi, je regarderai les candidats à la chefferie de la CAQ en fonction de leur programme. Si Mme Fréchette avait un discours indépendantiste et nationaliste, je m'enthousiasmerais pour elle. Il se trouve que c'est pas le cas.
Et dans le cas de Milliard, bon, on n'en parle pas. C'est quelqu'un qui gère un
magasin. C'est une figure mineure qui gère quelque chose qui s'appelle le Parti Égalité Nouvelle Version. C'est-à-dire le Parti libéral est un parti groupusculaire chez les francophones, mais qui se maintient à cause de l'appui massif chez les anglophones et les allophones. Mais le Parti libéral version Milliard, je ne vois pas comment il peut en sortir, d'autant que même sur le nationalisme, il est incapable d'avoir une position un tant soit peu ferme. Il dit « oui, je suis nationaliste, très bien ». C'est-à-dire « je veux pas plus de lois sur la langue française, la laïcité, j'ai des réserves avec ça ». Puis j'ai pas de remise en question à faire du Canada. Bon, ben, c'est, en quoi est-il nationaliste? Il suffit pas de dire je suis nationaliste pour dire qu'on est nationaliste. Si je me promène soudainement dans la rue avec le poids qui est le mien et je dis je suis mince, je suis mince, je suis mince, ben, je le deviens pas pour autant simplement parce que je le décrète.
Est-ce que t'as essayé?
Bon, oui, mais le fait est que mon auto-représentation de poids ne convainc pas tout le monde.
Est-ce que tu as déjà utilisé des filtres photographiques pour tes médias sociaux?
Jamais de la vie. Si tu savais à quel point je suis le dernier boomer en ces matières. Donc moi, je ne comprends rien à ça. Donc je sais que les filtres existent, mais pour moi, ça demeure des filtres à café.
Carney et la Chine. Carney et le Qatar. Et Carney qui veut faire la guerre des ducs au Groenland. Mais où est-ce qu'on s'en va? Je veux t'entendre là-dessus.
Ben ça, il y a deux éléments problématiques là-dedans. C'est-à-dire, moi, qu'on soit très critique envers Trump, je le suis aussi, manifestement, la séquence Groenland, je la trouve très inquiétante. Mais il n'en demeure pas moins que si le critère, c'est les États-Unis sont un régime qui a aujourd'hui une dérive au sommet, une dérive autoritaire, est-ce qu'ils savent ce qu'est la Chine? La Chine, la civilisation chinoise millénaire, c'est autre chose, mais la Chine, aujourd'hui, elle est commandée, quoi qu'on en dise, par le Parti communiste chinois, une structure de pouvoir qui a construit une société totalitaire, quoi qu'on en dise, avec une ambition impériale, quoi qu'on en dise, qui se manifeste en Afrique, qui se manifeste en Amérique du Sud, qui se manifeste un peu partout, qui pourrait demain envahir Taïwan, soit dit en passant, et à travers ça, s'aligner sur la Chine, c'est une forme, probablement, ça permet à Carney de sentir qu'il s'arrache des griffes américaines pour un temps, mais dans les faits, la relation durable et insurmontable qu'on a, c'est avec les États-Unis. C'est là, la géographie commande. J'ai pas de sympathie, j'ai pas de passion particulière pour l'Empire américain, moi. Je n'applaudis pas l'Empire américain. J'ai des grandes réserves sur l'Empire américain, mais j'en suis le voisin. Donc, il faut au moins que j'en tienne compte minimalement. Alors, quand Carney s'en va vers la Chine sur le mode rédempteur, il se fait applaudir par une petite clique qui croit qu'on peut abolir la géographie, mais la géographie nous rattrapera. Puis encore une fois, de ce point de vue, le Québec aurait tout intérêt à définir ses propres relations avec les États-Unis et à ne pas se laisser entraîner dans cette espèce de vieille relation toxique bizarre entre le Parti libéral du Canada et la Chine, qui remonte à Trudeau père, qui s'est menu pendant un bon moment dans l'histoire. Il y a eu la parenthèse Trudeau-fils. Puis si je peux me permettre, la parenthèse Trudeau-fils, c'est pas parce que Trudeau-fils était agressif envers la Chine, c'est parce qu'on s'est rendu compte à quel point il y a avait, par la Chine, une volonté de multiplier les ingérences étrangères au Canada en fonction de ses intérêts. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans tout cela, et Mark Carney se fait féliciter pour quelque chose qui est beaucoup plus critiquable, à mon avis, qu'on ne le dit.
Je me rends compte que les droits humains, ça recule. C'est quoi qu'on en dise, dans les années 80-90, il y a eu une part dans Jean Chrétien et son équipe, une part quand même dans le vieux progressisme, je vais l'appeler comme ça, Canadian. Il y avait quand même un discours intéressant sur les droits humains. Bon, ça venait de l'histoire de Pearson, peut-être. Mais je veux t'entendre là-dessus quand même, parce que, tu sais, subitement, on oublie l'esclavage chinois, on oublie les Ouïghours, et là, les LGBTQ+, c'est bien important à Montréal, mais si t'es gay ou lesbienne au Qatar, tu te fais lapider, mais c'est pas grave, on en arrive avec un deal avec le Qatar. Je trouve que notre philosophie droit humain est vraiment géométrie variable? Je veux t'entendre là-dessus.
Premièrement, pour ce qui est de la gauche, si elle était vraiment soucieuse des droits ce qu'elle appelle les minorités sexuelles, bien, elle aura un rapport plus trouble avec Gaza qu'elle ne le dit.
Ben oui.
Premier élément. Bon. Ensuite, moi, j'accepte la politique internationale. Le général de Gaulle disait assez justement, la politique internationale, ce n'est pas une question de régime, mais d'État. C'est-à-dire qu'un pays peut changer de régime, il peut avoir des secousses à l'interne. Nos relations ne sont pas avec l'idéologie qui commande un pays en particulier. Notre relation est avec le pays en lui-même, l'État tel qu'il existe sur la scène internationale. S'entendre avec la Chine en soi, je comprendrais l'idée. C'est-à-dire qu'il se peut quelquefois qu'on s'entende avec un régime dont on désapprouve fondamentalement les orientations, ce qui est mon cas. Il n'en demeure pas moins que ce dont je parle, moi, c'est de géographie. Je parle même pas de valeurs morales. Je parle même pas de droits de l'homme et tout ça. Même si j'y tiens, bien évidemment. Puis, soit dit en passant, chrétien qui s'entendait bien que la Chine de l'époque n'était pas une démocratie exemplaire non plus. Mais, cela dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la géographie. On est pogné pour longtemps, j'ai l'impression, à moins qu'il y ait une espèce de grand tremblement de terre inattendu à la colle. On est pogné avec la frontière, avec les Américains.
On est dans le même position que les États-Unis, en clair.
Il faut chercher à s'entendre avec eux. S'entendre avec eux, ça veut dire tenir compte de comment on peut jouer nos intérêts devant un empire qui, aujourd'hui, par ailleurs, renoue avec une forme d'impérialisme prédateur inquiétant. On le voit avec le Groenland. Je pense qu'il y a rien ne justifie d'aucune manière cette ambition conquérante, cette volonté d'annexer le Groenland par la force du commerce.
La peur de la Chine et de la Russie demeure tangible et ça demeure
vérifiable. Oui, mais j'entends, mais il y a déjà une base américaine considérable au Groenland. Ils peuvent étendre cette base s'ils le souhaitent. Ils peuvent renforcer leur présence militaire s'ils le souhaitent. Tout le monde le comprendrait. Là, ils veulent pas ça. Ils veulent annexer le territoire. Trump veut planter le drapeau américain quelque part en plus. Bon, sur un nouveau territoire. Donc, après avoir atteint les frontières à l'ouest, ils veulent atteindre la frontière au nord. Là est l'enjeu. Le Canada, la France, l'Allemagne, la Norvège, demain matin, n'entreront pas en guerre avec les États-Unis pour défendre le Groenland. On le sait. Alors là, à partir de ce moment-là, à quoi ça nous sert de faire ces rodomontades? À quoi ça nous sert de faire ces espèces cette grande gestuelle, ces grands gestes-là, c'est sur le mode de « nous allons résister ». Le jour où les Américains décident que ces soldats-là dégagent, est-ce qu'on peut imaginer un instant un affrontement avec des soldats canadiens, des soldats américains? Non. Donc, il faut juste arrêter de faire semblant. Ensuite, ça nous oblige à savoir avec qui on doit dealer. Et c'est pour ça que la séquence Trump nous oblige à une grande prudence dans notre rapport avec les Américains. Puis j'y reviens parce que ça me semble important. Même d'un point de vue québécois, on constate que l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec n'ont pas les mêmes intérêts par rapport aux États-Unis, n'ont pas les mêmes intérêts par rapport à la Chine, que l'élite fédérale canadienne veuille s'entendre avec Pékin. Peut-être, mais pourquoi embarquer le Québec là-dedans alors que l'essentiel de notre activité économique se fait au sud de la frontière et pas avec la Chine? Est-ce qu'on peut juste garder ça à l'esprit? Mais on a de la difficulté à penser nos propres intérêts là-dedans. Mais j'y reviens sur le Groenland un instant. On est dans un moment d'impérialisme prédateur qui donne raison au titre de Giulio De Ampoli. Hein, il parle de l'heure des prédateurs. Cette séquence ne sera pas éternelle. Les Américains ne peuvent pas multiplier ainsi les opérations sans cesse sans finir par s'abîmer. Mais là, il faut chercher à traverser cette période-là sans faire semblant qu'on veut rentrer en guerre avec eux parce qu'on sait que ça n'arrivera pas.
Et dernière question, est-ce que ça t'a fait un petit velours en fin de semaine de voir des Albertains séparatistes, entre guillemets, separatist Albertans, aller faire la file carrément dehors pour signer une pétition, pour exiger un référendum sur, oui, l'indépendance de l'Alberta? On croit pas, toi ou moi, que ça arrivera. Mais quand même, il y a des gens qui, entre autres, Eric Deer et ailleurs, il faisait pas beau en Alberta, ils ont fait la file pour signer le registre. Tandis quoi?
Ben, je dis que ça les concerne. C'est-à-dire que moi, je considère que le Canada est un pays qui existe. Si ces provinces veulent en sortir une par une, ça les concerne. Je ne me sens pas engagé. C'est vraiment là-dessus. Le Canada est pour moi un État artificiel, globalement. On le voit plus que jamais en ce moment. Si l'Alberta veut partir, qu'il parte. Mais de ce point de vue, que le Québec doit partir, doit quitter la Fédération, que l'Alberta y reste ou non. C'est-à-dire ça, je pense qu'en ces matières, il faut distinguer les choses. Nous avons une question nationale. À part entière, ils ont des tensions régionales qui sont d'une autre nature, mais ça les concerne. S'ils réussissent leur coup, tant mieux. Je serais un peu vexé s'ils réussissaient avant nous, mais je pense qu'on va réussir avant eux.
Ce sera un duel du MPSPP au final en élection en octobre.
Ça reste à voir selon les régions. Je pense que le PQ va ramasser beaucoup. Je pense que les médias vont tout faire si Mme Fréchette l'emporte. Vont tout faire pour la mettre de l'avant. Les médias ont une vraie puissance de conditionnement
surtout
de l'opinion.
Radio-Canada et la presse.
Ah ben c'est quand même c'est le complexe médiatico-technocratique du régime. C'est-à-dire c'est que bon, alors une fois que c'est dit, on le sait, mais je pense que oui, Duhem va avoir une vraie percée parce que ça correspond à une vraie sensibilité. Je pense que le PQ va l'emporter et je ne m'en désole pas. La CAQ pourrait se retrouver avec zéro député. J'espère que si la CAQ conserve quelques députés, qu'ils seront de cette aile nationaliste associée à Jeanne Barrette, mais on n'en sait rien en ce moment, c'est davantage un coup de dé, à moins encore une fois que le système réussisse à maintenir au pouvoir la CAQ version fraîchette. C'est pas impossible, mais j'y crois pas trop.
Mathieu Boccoté, merci beaucoup.
Au plaisir, bye-bye.